Marie-Thérèse Muret vivante. Les mamas connasses, de plus en plus affolées par le feu, le sang dont elles étaient couvertes et l'odeur atroce, et la fumée odieusement parfumée des bûchers, réclamaient elles aussi le supplice. Trois d'entre elles se jetèrent dans les flammes, mais en ressortirent presque aussitôt, tendant la gorge au sacrificateur qui les fit mourir comme elles le désiraient. Et on ne sait jusqu'où aurait été ce délire du sacrifice et de la mort si le geste du Huascard y avait mis fin. Sur un signe de lui, la musique infernale cessa, les danses et les chants s'apaisèrent, et les gardiens du temple éteignirent sous la cendre les restes des bûchers. C'était le tour de Marie-Thérèse. Raymond, presque évanoui, rouvrit les yeux à la parole de Rellana. Il vit les mamaconas dépouiller Marie-Thérèse des ornements de prix dont elle était littéralement couverte. Sur elle, les larmes du soleil, selon l'expression consacrée, brillaient de leur éclat doré, de la tête aux pieds. Sa chevelure, ses oreilles, ses joues, sa poitrine, ses épaules, ses beaux bras, ses nobles jambes, ses chevilles sur les sandales d'or, ne laissait voir que bijoux, plaques et disques éblouissants, pendentifs et bracelets. Tout cela lui fut enlevé et précieusement déposé dans un bassin d'or. On lui ôta également le fatal bracelet soleil d'or. Ces bijoux devaient être à nouveau cachés jusqu'au jour qui viendrait, dans 10 ans, où l'Inca aurait besoin d'une nouvelle épouse du soleil. Pendant qu'on la dévêtait ainsi de sa gaine d'or, au fur et à mesure du travail rapide des mamaconas, Marie-Thérèse, dont les yeux étaient toujours clos, apparaissait entièrement cerclée de bandelettes. Extérieurement, on en avait déjà fait une momie. Ses bras étaient attachés à son corps. On n'avait plus qu'à la déposer dans son tombeau. Les yeux de Raymond ne quittaient plus ce qu'il pouvait voir encore de ce visage bien-aimé sous les bandes de toile parfumées qui lui liaient le menton, le front et les lèvres, laissant seulement à découvert les yeux fermés et la bouche entrouverte, mais immobile comme si elle venait d'exhaler le dernier soupir. Et il crut fermement que Marie-Thérèse était bien morte. Et cela ne cessait-il de se répéter, et était mieux ainsi. Ainsi, elle ne se sentait pas enlevée par les trois hideux gardiens du temple qui la déposaient sur la chaise funèbre et qui, suivis de toute la théorie des mamaconas, la glissaient dans l'épaisseur de la muraille, dans ce trou où elle devait rester 1000 ans pour être ensuite brûlée à son tour. À ce moment, les rayons du soleil, comme pour faire une échelle d'or à celle que les Incas, ses enfants lui envoyaient dans leur piété cruelle, vinrent se poser près de Marie-Thérèse. Ils illuminaient sa tombe étroite, et Raymond ne perdit rien des derniers gestes de l'atroce cérémonie. Il s'agissait de replacer les trois plaques lourdes de granit rose, qui, glissant les unes sur les autres, et s'adaptant et s'ajustant d'une façon parfaite, allait fermer la tombe sur le mode architectural des Incas. L'opération se poursuivit dans le silence le plus terrible. Toute l'assemblée avait les yeux fixés sur celle que l'on murait, mais nul n'eût pu dire si elle n'était point déjà morte. La première plaque glissée par les trois gardiens du temple qui pliaient sous le fardeau cacha Marie-Thérèse jusqu'au genou. La seconde, apportée à la hauteur du niveau supérieur de la première pierre vers une plateforme roulante, fut poussée à son tour et cacha Marie-Thérèse jusqu'aux épaules. On ne voyait plus maintenant que sa tête dans ce trou funèbre, sa tête entourée de bandelettes, sa tête de momie, son visage de morte. Et c'est alors que tout à coup, un long frisson parcourut toute cette assemblée qui avait cependant assisté sans frémir à toutes les précédentes horreurs sacrées, les yeux de Marie-Thérèse venaient de s'ouvrir. De s'ouvrir tout grand au fond de ce tombeau qui se refermait sur elle. Les yeux étaient bien vivants, effroyablement ouverts, tout grands sur ce qui lui restait à voir de la vie avant de n'avoir plus à contempler ce que la ténèbre éternelle. Son regard vivant fixait ces gens qui la regardaient mourir, cette foule en habit de fête, ce temple resplendissant, et pour la dernière fois la douce, la belle lumière du jour. Une angoisse surhumaine faisait s'agrandir encore, encore, ce grand, ce suprême regard qui n'allait plus rien voir jamais. Les lèvres remuèrent, et l'on put croire qu'un cri suprême d'appel à la vie, qu'une clameur d'horreur pour la nuit du tombeau allait s'en échapper. Mais elles se refermèrent sur un pauvre gémissement sans force, tandis que la dernière pierre était poussée sur le grand regard vivant. Maintenant, elle appartenait au Dieu. Huascar fit un signe sacré, et l'exode commença en silence. Il convenait à tous de se retirer du temple, comme les ancêtres se retiraient de la chambre nuptiale après avoir amené la tremblante épouse. Le départ s'accomplit sans aucun chant, sans bruit, sans murmure. Il y eut le glissement des sandales innombrables sur les dalles. Et les prêtres, Huascar en tête, et les nobles, les couracas, les jeunes gens et les vierges et les mamaconas franchirent le seuil des portes d'or. Oviedo Luntu était descendu de son trône et s'était assis à côté de la momie royale sur la chaise d'or occupée tout à l'heure par Marie-Thérèse. Les punches rouges chargèrent sur leurs épaules les deux monarques, le mort et le vivant, et disparurent à leur tour au fond du couloir de la nuit. Il ne restait plus dans le temple que les trois gardiens du temple et les cendres des victimes. Les trois gnomes avaient à peine refermé les lourdes portes pour vaquer en paix à leurs soins domestiques, qu'ils virent arriver sur eux une ombre forcenée, et ils s'enfuirent épouvantés dans la chapelle de la lune. Mais la sœur du dieu ne les protégea point. C'est sur les marches de son autel qu'ils furent abattus par le feu humain comme des bêtes mauvaises. C'est là que les trois crânes hideux éclatèrent sous les balles de Raymond. Et le jeune homme, l'exécution achevée, bondit dans le temple, où déjà Orellana ébranlait les pierres tombales à grands coups de pioche. Il lui arracha l'outil et, haletant, il frappa à son tour. Mais les pierres ne remuaient point. Et Raymond, le front couvert d'une sueur glacée, se demandait maintenant si tant de brutalité était utile. Il essayait de voir, de raisonner en ce moment suprême. Il faisait appel à sa science d'ingénieur, à ses souvenirs d'école. Il s'efforçait d'oublier Marie-Thérèse qui agonisait derrière ses pierres pour ne penser qu'aux problèmes qui les feraient basculer. Elle n'était point trop lourde. Les forces d'Orellana et les siennes suffiraient à les soulever puisqu'elles avaient obéi aux efforts des trois gnomes. Et si on ne les avait point faites plus lourdes, c'était à cause de la nécessité où les prêtres incas étaient évidemment de les déplacer pour certaines cérémonies. Mais par où les prendre? Mais par où les prendre? La prison de granit s'ouvrira-t-elle? Il essaya, posément, tranquillement, domptant la tempête intérieure qui l'eût précipité aveuglément contre ce rempart, de trouver le joint. Ordonnant à ses mains de ne pas trembler, il tenta de glisser la partie plate de l'outil entre les deux pierres, mais n'y réussit point. C'était le miracle de l'architecture que, sans ciment, ces pierres étaient si bien ajustées qu'il était souvent difficile d'en trouver la ligne de démarcation. Mais comment les remuait-on? Comment les avait-on remuées? Car enfin, on les avait tirées de leur alvéole. Elles tournaient peut-être sur elles-mêmes. Mais où fallait-il toucher, où frapper? Et pendant ce temps-là, Marie-Thérèse mourait dans sa prison de granit. Désespéré, il reprit la pioche qu'il dut disputer encore à Orellana, lequel l'étourdissait déjà de ses gémissements effrayants, et il lança à tout hasard sur la gauche de la pierre un coup à toute volée. Il avait donné là toutes ses forces, il avait rassemblé toutes ses énergies. Il avait donné un coup de titan. La pierre tourna un peu sur elle-même à droite. Oui, elle dépassa le joint. Il poussa un cri de victoire et continua de frapper avec rage. L'alvéole semi-circulaire étant ainsi faite que la pierre pouvait glisser et tourner sur la droite et sortir de son cadre sur la droite. Alors il commença d'appeler « Marie-Thérèse, Marie-Thérèse !» comme si déjà elle pouvait entendre. Et Orellana, qui tournait derrière lui, criait « Maria Cristina, Maria Cristina !» Raymond frappait, frappait. Et le moment vint où la pierre fut suffisamment sortie sur la droite pour qu'il pût la prendre entre ses mains, entre ses ongles, qui inutilement s'y arrachèrent. Alors, avec le manche de sa pioche, il continua de pousser à gauche et le côté droit vint tout entier. Cette fois, il put prendre la pierre et Orellana se joignit à lui et ils attirèrent à eux la pierre, à eux, elle venait à eux. Marie-Thérèse, Marie-Thérèse, il délivrait Marie-Thérèse. Ah, elle était sauvée. Un suprême effort, un prodigieux han, et la pierre bascula tout à fait, tomba avec fracas sur le parvis du temple. Marie-Thérèse, la figure entourée de bandelettes apparaît au fond de son trou noir. Ce n'est pas Marie-Thérèse. Raymond pousse un cri de rage inexprimable. C'est le visage mort d'une reine morte, c'est la momie d'une ancienne Koya qu'il a devant lui. Il s'est trompé. Secoué d'un tremblement affreux, il se retourne vers Orellana, les mains prêtes à étrangler le misérable fou qui s'était attaqué avec sa pioche à une autre tombe. Et lui, le plus insensé, Raymond, avait continué l'ouvrage du fou, s'était laissé diriger à cette minute suprême d'où dépendait la vie de Marie-Thérèse par un fou. Toutes les tombes se ressemblent. Et maintenant, est-ce la tombe de droite, est-ce celle de gauche? Ah, mais toutes ces affreuses pierres se ressemblent. Toutes ces tombes qui font le tour du temple sont pareilles. Cependant, il ne peut y avoir une erreur nouvelle, puisque ce n'est pas cette tombe qu'il vient d'ouvrir qui renferme Marie-Thérèse, c'est certainement celle qui se trouve à droite. Ceci est bien déterminé par l'angle de l'autel sur lequel son regard glissait du haut de la niche pour arriver au trou dans lequel on avait enfoui Marie-Thérèse. C'est sûr, c'est sûr. Et il s'attaqua fortement à la tombe de droite. Il recommença le même effort brutal. Il frappe, et Orellana derrière lui. Orellana, qui est plus fou que jamais depuis qu'il n'a pas reconnu sa fille, lui crie à chaque coup « Han, han, han !» comme s'il donnait le coup lui-même. Enfin, la pierre tourne. Elle vient, elle glisse dans leurs bras. Voici le trou. « Marie-Thérèse, c'est moi, Raymond !» « Réponds-moi !» Et il se penche sur cette tête immobile de morte. « Ce n'est pas Marie-Thérèse, ce n'est pas Marie-Thérèse !»« Ah, Dieu du ciel !» Raymond tombe épuisé et désespéré sur les dalles. et il pousse un sanglot terrible où il a mis toute sa rage et toute son impuissance et toute sa révolte contre les destins. Mais déjà, de nouveau, il est debout, il est à l'ouvrage. C'est Orellana qui lui a donné l'exemple. Car déjà, Orellana frappe. Puisque ce n'est pas la tombe de droite, c'est celle de gauche. Et Raymond arrache encore la pioche des mains débiles du vieillard et il frappe furieusement le granit. Ah, que le temps passait déjà, que de minutes perdues, pendant qu'elle étouffe, elle, victime de leur erreur. Frappe, Raymond, frappe encore. La pierre cède sous tes coups, et tu vas enfin la voir, ta tragique fiancée, tu vas la sauver, tu vas enfin la reconnaître. Oh, oh, tire la pierre à toi, encore un effort. Là, elle est à toi, la pierre, jette-la sur le parvis. Regarde. Hélas, malheureux, tu ne la reconnais pas. Ce n'est pas Marie-Thérèse, ce n'est pas elle. C'est toujours une morte. Mais pendant que tu jettes pour la troisième fois ton cri d'infernal désespoir et que tu te heurtes le front contre les murs, et que tu appelles la mort pour te délivrer de cet atroce supplice. Réana, lui, a poussé une clameur d'allégresse et de triomphe. « Ma fille, ma fille, ma Maria Christina, me voilà, c'est moi, c'est ton père qui vient te délivrer. » Le fou a reconnu son enfant. « C'est elle, c'est bien elle. » Celle qui lui a été ravie il y a 10 ans et qu'il cherche depuis 10 ans au fond des couloirs de la nuit et dans tous les temples de la mort. Maria Christina, attends, attends, mon enfant, encore une pierre, et je te sors de ta prison. Mon enfant. Il pleure, il sanglote de joie, il étouffe de joie. Ses bras insensés ont repris la pioche et frappé le granit. Mais voilà que Raymond est sur lui. « Oh, tu perds ton temps à délivrer une morte, il y a une vivante dans ces tombes !» Et une lutte terrible s'engage entre le vieillard et Raymond pour la possession de l'outil qui reste fatalement dans les mains du jeune homme. Alors, tandis que Raymond recommence d'ébranler avec rage ses murs funèbres, le vieillard, pour le dernier effort de sa vie, parvient à tirer à lui la seconde pierre et à sortir de sa tombe le squelette enveloppé de bandelettes de sa fille chérie, de sa Maria Christina, qu'il serre dans ses bras, qu'il étreint, qu'il couvre de baisers, avec lequel il roule sur les dalles du temple et sur lequel, après un heureux soupir, il s'endort. Pour toujours. Orellana est mort, mais il a retrouvé sa fille. Le désespoir de Raymond. Et Raymond, lui, retrouvera-t-il Marie-Thérèse? Encore une tombe ouverte et encore une morte. Ô mystère des dieux! Mystère du temple de la mort qui ne rend que ses morts et qui garde ici la jeune épouse vivante. Chancelant, criant, pleurant, enfonçant les ongles dans sa chair, se déchirant, prêt à s'offrir lui-même pantelante victime au dieu féroce à qui il faut de la chair et du sang, Raymond titubant, tombant, se relevant, traînant derrière lui sa pioche inutile qui ne sait plus où frapper, essaie encore de comprendre, de se rendre compte. Son regard insensé fait le tour de ce temple circulaire où tous les ornements se répètent, où il est presque impossible de trouver un point de repère. Alors il ne sait plus, il va au hasard, cela vaut peut-être mieux. Le hasard lui donnera peut-être ce que le raisonnement lui a refusé. Lui livrera cette tombe où, parmi les 99 mortes, a été enfouie la vivante. Et il frappe, mais combien lourdement maintenant. Oh, combien lourdement, oh, que la pioche est lourde entre ses mains tremblantes. Il n'en peut plus, il ne peut plus. Elle lui échappe. Et lui reste là, les bras ballants, les yeux hagards, regardant les yeux des mortes qui le fixent au milieu de débris de sa besogne sacrilège. Il y a combien d'heures qu'il travaille? Les rayons obliques du soleil ont remonté le long des murs, puis ont disparu, et la lumière qui les suit s'est retirée à son tour. Et l'ombre est venue, et la nuit. Sur les marches de l'hôtel où il s'est traîné, il est étendu, enveloppé par la nuit qui jette sur son agonie des voiles aussi noirs que ceux des mamas connasses, et il ferme les yeux pour dormir ou pour mourir, oh, puisque Marie-Thérèse est morte. Dernier chapitre, dans lequel il est prouvé que les amoureux ne doivent jamais désespérer de la Providence. Un matin, que le petit bateau à vapeur qui fait le service du lac Titicaca passait au large des îles, il fut ailé par un grand Indien, Quichua, qui se tenait debout dans sa pirogue de Totora et sous son punch agitait désespérément les bras. Le bateau ralentit sa marche et le capitaine, ayant compris qu'il s'agissait de sauver un blanc, lequel gisait étendu au fond du canot, consentit à stopper. C'est ainsi que Raymond Auzou rentra dans la civilisation. Après une fièvre qui l'eut fatalement emporté, s'il ne s'était justement trouvé dans le pays où le monde a appris à la guérir, il se réveilla dans l'honnêteté et dans l'honnête lit d'un marchand de laine d'Alpaga de Pulho, lequel se trouvait à bord du Yavari, quand on y avait lissé le pauvre corps frissonnant de Raymond et qui en avait eu pitié. L'Indien avait raconté qu'il avait trouvé la nuit précédente l'étranger, ou quelques touristes sans doute, au milieu des ruines de l'île Sainte, perdu, abandonné et râlant. Il avait fait boire de l'eau rose et l'avait transporté dans son canot, dans l'espérance de rencontrer le Yavari au petit jour. L'ayant dit, l'Indien s'était éloigné sans avoir voulu recevoir aucune récompense. On l'estima bien honnête, car fouillé, Raymond fut trouvé porteur d'une somme importante et l'on ne comprit guère que le Quichua ne l'eût point dépouillé. Quand le malade fut en état de comprendre ce qui se disait autour de lui, et qu'on lui eût apporté l'incident de l'Indien, il ne douta point que ce généreux Quichua dont on lui avait fait la description fût Huascar lui-même. En sa qualité de grand prêtre du temple de la mort, Huascar avait dû être ramené par ses devoirs sacerdotaux dans ce lieu maudit. Il avait découvert Raymond, les traces de sa besogne sacrilège, et sans doute les cadavres des trois gardiens du temple sur les degrés de la chapelle de la Lune. La froide colère calculatrice de l'Indien avait alors inventé pour Raymond le pire supplice, celui de le laisser vivre après la mort de Marie-Thérèse. Mais ce supplice, le jeune homme était bien décidé à ne le point subir longtemps. L'idée qu'il aurait pu sauver Marie-Thérèse et que celle-ci était morte par sa faute à cause de son manque de sang-froid lui était particulièrement insupportable. Et il se rendait compte qu'il ne pourrait jamais se débarrasser de cette idée-là, qu'elle pèserait toujours sur lui, qu'elle parviendrait à l'étouffer et qu'il fallait mieux en finir tout de suite. Seulement, il ne voulait point mourir dans ces affreuses montagnes témoins de tant d'horreurs. L'image de Marie-Thérèse qui ne le quittait pas ne ressemblait plus, depuis qu'il avait décidé de l'aller rejoindre, à cette terrible figure de momie vivante apparue au-dessus de la pierre du tombeau, mais à la douce et tranquille et heureuse silhouette qui vaquait à sa besogne commerciale dans les bureaux de Callao entre les gros registres verts. C'est là qu'il l'avait revue après une si longue absence. C'est là que, pour la première fois, elle lui avait dit « on s'aime » et c'est là qu'il irait la retrouver pour mourir. La pensée de cette mort-là fit qu'il se porta mieux tout de suite. Après avoir généreusement remercié son hôte, il se jeta dans le premier train qui partait pour la côte, pour Mollendo, d'où il prendrait quelques bateaux à destination de Caloa. Le voyage lui parut long. En passant à Arequipa, il vit de loin la petite maison en adobe et songea aux vaines démarches qu'ils avaient faites auprès de ce bandit de Garcia, et pour la première fois depuis qu'il était sorti du temple de la mort, il se demanda ce que pouvaient être devenus ses compagnons de voyage, son oncle François Gaspard, le marquis et Natividad. Peut-être était-il mort, eux aussi, voué à quelque martyr au fond du couloir de la nuit, dans la maison du serpent. Pauvre oncle François Gaspard, qui ne ferait plus de conférences. Pauvre Natividad, qui ne verrait jamais plus Jenny l'ouvrière. Mais s'il en était ainsi, le marquis au moins n'avait pas enduré la torture d'assister impuissant au supplice de ses deux enfants. À Mollendo, Raymond s'enfuit tout de suite, malgré un temps de tempête, sur le débarcadère où il trouva errant sur la plage deux ombres. Cependant, comme celles-ci accouraient avec force démonstration, il dut bientôt constater qu'elles étaient vivantes. L'oncle François Gaspard, Natividad, bien que leur mine fût des plus tristes, ils ne paraissaient pas avoir trop souffert. Raymond leur serra la main sans même s'enquérir de ce qui leur était arrivé. Quant aux deux autres, ils voyaient le jeune homme si pâle et si défait qu'ils n'osèrent pas lui poser une seule question relative à Marie-Thérèse et au petit Cristobal. Ils marchèrent, tous trois, quelque temps, en silence, plongés dans leurs pensées néfastes. Enfin, l'oncle Zou demanda à son neveu « Et le marquis, tu sais pas ce qu'il est devenu ?»« Oh, je le croyais avec vous, » répondit Raymond de sa voix déjà détachée de toutes les choses de ce monde. Bienheureuse apparition. Ce fut alors seulement que Natividad expliqua, sans que personne ne lui demandât, qu'après la funeste tentative de la maison du serpent, ils avaient été jetés tous deux, M. Ozu et lui, au fond d'un cachot où ils étaient restés 4 jours et dans lequel l'illustre membre de l'Institut avait pu se rendre un compte exact de la réalité de son aventure. Au bout de ces 4 jours, ils avaient trouvé la porte de leur prison ouverte et s'étaient sauvés sans avoir même eu le temps de demander des nouvelles du marquis. À ce moment, en effet, tous les Indiens abandonnaient précipitamment le Cuzco et s'enfuyaient dans la montagne. Ignorant à quelle catastrophe nouvelle ils avaient affaire, Natividad et François Gaspard avaient couru vers Sicuani, où ils prenaient le train, et c'était justement cette catastrophe qui les avait sauvés. Ventimiglia venait de surprendre et de battre à plate couture les troupes de Garcia, indisciplinées et abruties par les fêtes de l'Interahimi. Des milliers de Quichuas, soldats et civils, avaient été balayés du Cuzco en quelques heures par les 4 escadrons d'escorte qui étaient restés fidèles au président de la République, et à la tête desquels celui-ci avait chargé, pour tenter, par un effort suprême, de ramener la fortune. Ces 500 hommes de sang espagnol avaient vaincu les Incas comme jadis Pizarro dans ces mêmes plaines de Xhosa et sous ces mêmes murs qui continuaient d'assister, avec l'impassibilité des choses immortelles, à la lutte des races. Garcia avait dû s'enfuir en Bolivie. Il allait se faire sauter la cervelle. Quand la nouvelle d'une révolution au Paraguay lui redonna le goût de la vie, et il passa la frontière du Paraguay avec tout son ministère péruvien, à la grande joie du président de la République en Bolivie. Parti de Sicuani, Natividad et Ozu ne s'était arrêté qu'à Moliendo, et il comptait bien y rencontrer le marquis si le nouveau destin de la République lui avait également ouvert les portes de sa prison. En ce qui concernait Raymond, qui avait pu s'enfuir, il n'espérait plus le revoir qu'à Lima, après qu'il aurait tout tenté pour sauver Marie-Thérèse. C'était la première fois qu'il prononçait son nom depuis qu'ils avaient retrouvé le jeune homme. Celui-ci vit qu'il le regardait avec une angoisse réelle. Une touchante douleur était peinte sur le visage de François Gaspard. « Mon oncle, elle est morte ?» Et il se jeta dans ses bras. François Gaspard pleura et embrassa son neveu avec une grande, une véritable tendresse. Raymond s'arracha de son étreinte, tout secoué de sanglots, et ils le laissèrent s'éloigner le long de la plage où le flot retentissant les retenait prisonniers depuis plus de 10 jours. Le Pacifique les trahissait à son tour et s'opposait à leur embarquement. Pauvre Raymond, pauvre Marie-Thérèse, pauvre petit Cristobal, gémissait François Gaspard. Il avait fallu de pareils malheurs pour que le bon cœur de l'oncle Ozu se montra dans toute sa nudité, jadis trop habillé de froid des mauvaises littératures officielles. Il se reprochait amèrement d'avoir affiché au commencement de l'expédition et jusqu'à Cusco une attitude indifférente qui avait justement outré ses compagnons, mais pouvait-il se douter une pareille chose? Cette pauvre jeune fille, ce pauvre petit garçon, mais c'était affreux! Qu'est-ce qui aurait pu croire ça? En France, on ne le croirait jamais, jamais. Il aurait beau le raconter dans les conférences, avec projection et pleurs à l'appui, mais non, on ne le croirait pas. C'était terrible. Il pleurait, Natividad aussi pleurait. Cette fois, disait celui-ci, il faudrait bien que Ventimiglia m'entende. Il nous vengera, que dis-je? Il nous a déjà vengés par ses victoires. Le Pérou lui doit tout. C'est un grand homme. Garcia nous aurait fait retomber dans la barbarie. Il l'a bien prouvé dans toute cette affaire. Nous avons failli être ses victimes. 8 jours encore se passèrent. Tant qu'on ne put prendre le bateau pour Callao, Ozu et Natividad surveillèrent le désespoir de Raymond, mais celui-ci avait un calme qui les trompa. Et quand ils furent à bord, Natividad et Ozu se permirent de le questionner sur les événements terribles auxquels il avait assisté. Il leur raconta tout ce qu'il avait vu dans le temple de la mort et l'agonie de Marie-Thérèse. Cette narration, faite d'une voix simple et singulièrement paisible, fut écoutée avec horreur par Natividad et François Gaspard, qui s'enfuirent aussitôt dans leur cabine, où ils s'enfermèrent pour pleurer sans être dérangés sur le cahier de notes qui allait fixer un si étrange récit. Raymond, appuyé sur bastingage, regardez maintenant venir à lui cette côte qu'il avait récemment abordée avec tant de bonheur et où dans 1 heure il allait mourir. Ah, le Pérou de Pizarro et des Incas, le pays fabuleux de l'or et de la légende, la terre de sa jeune ambition et de son amour. Mort son amour, morte son ambition. Seul vivait toujours la légende dont il avait ri et qui avait tué tout cela, et qui allait le tuer, lui, après Marie-Thérèse, pour avoir ri, ri de ce que racontaient les deux vénérables vieilles dames tombées d'un tableau de Velázquez et qui semblaient avoir tant de mal à se relever, la tante Agnès et la duègne Irène, qui racontaient de si curieuses histoires autour du bracelet Soleil d'Or. Comme la première fois, ce fut lui qui se jeta le premier dans la petite embarcation du batelier Criard, mais cette fois il n'eut point besoin de demander où se trouvait la Calle de Lima. Et ses yeux ne quittèrent plus cet endroit de la ville où il avait couru si plein d'espoir, où l'avait attendu Marie-Thérèse. Hélas, aujourd'hui, après avoir abordé ses 100 hâtes et qu'il gravit les petites ruelles, qu'il pénètre dans leur labyrinthe, qu'il glisse dans l'ombre des arcades et qu'il atteint enfin les trois carrefours d'où l'on aperçoit la véranda. C'est là qu'il avait entendu sa voix. C'est là qu'il venait la chercher tous les soirs, et c'est là qu'un soir, il ne l'avait plus trouvée. Jamais plus elle ne reviendra, la pauvre Marie-Thérèse. Jamais plus elle ne pliera, sous le poids des gros registres verts, sa souple taille où s'enroulait la chaîne d'or qui retient le crayon pour les chiffres. Jamais plus il ne l'entendra discuter de sa jolie voix claire le prix et la qualité du guano. Jamais plus elle ne se penchera à la fenêtre pour voir s'il arrive. Et Raymond s'avance, et tout à coup il s'arrête et chancelle. Sa main se porte à son cœur. Ah, cette fois il va mourir. Tant mieux, n'est-il pas venu ici pour cela? Cette apparition là-bas, à la fenêtre de la véranda, lui fait trop de mal. Il étouffe. C'est la plus cruelle des hallucinations, ou bien c'est peut-être vrai que les ombres après la mort viennent errer autour des endroits qui leur furent chers, car il voit l'ombre de Marie-Thérèse, et ces ombres ont certainement le pouvoir de se montrer à ceux qui les ont aimés. L'ombre de Marie-Thérèse est à la fenêtre. Dieu, comme elle est pâle, elle est diaphane. Quel visage de tristesse et de mort ont les ombres des morts qui viennent se promener dans la vie. Elle se penche comme autrefois, elle tourne la tête comme autrefois, elle a tous les gestes d'autrefois, mais ce sont des ombres de gestes. Et Raymond ose à peine murmurer « Marie-Thérèse » de peur que toute cette ombre ne s'efface ou qu'au seul son de sa voix ne s'évanouisse sa bienheureuse hallucination. À pas prudent, il s'avance, il glisse avec la précaution d'un enfant qui s'apprête à saisir un papillon et qui a la crainte de le voir s'envoler, et son cœur bat, son cœur se gonfle, son cœur va éclater. Car c'est bien un cri vivant qui s'échappe des lèvres de l'ombre. Raymond, Marie-Thérèse. Encore une fois, ils sont dans les bras l'un de l'autre. Il serre la chère ombre, il ne se doute pas qu'elle, comme lui, pourrait croire ne serrer qu'une ombre. Ils ont tant souffert tous les deux, tant souffert. Ils défaillent aux bras l'un l'autre. Ils tomberaient si on ne les entourait, si on ne les soutenait. Voilà les bonnes vieilles dames, Agnès et Irène, qui reviennent en pleurant et qui retiennent Marie-Thérèse sous les bras. Et le marquis, plus vaillant, a couru dans la cahier et ramène Raymond à son bras. Et tous pleurent, pleurent. Il n'y a que le petit Cristobal qui ne pleure pas, mais qui saute de joie à la porte du bureau en revoyant son bon ami Raymond et qui tape d'allégresse dans ses menottes. « Je te l'avais bien dit, Marie-Thérèse, qu'il n'était pas mort. Tu vas guérir maintenant, tu vas guérir. » Et Marie-Thérèse, dans les bras de Raymond, dit « Je savais bien, moi, que s'il devait revenir, c'est ici qu'il reviendrait. Mais est-ce bien toi? Est-ce bien toi, mon Raymond ?»« Et toi, Marie-Thérèse, est-ce toi que je tiens dans mes bras ?»« Oh, Marie-Thérèse a été bien malade et nous avons cru qu'elle allait mourir. » fait le petit Cristobal pendant que les deux vieilles sanglotent et que le marquis se mouche, mais on l'a guéri en lui disant que Raymond n'était pas mort. Moi, je lui disais, « Tu verras, le bon Oscar l'aura sauvé aussi, c'est sûr. Oscar nous a tous sauvés, tous. Il faudra bien l'aimer quand il reviendra à la maison. Papa le dit bien, oh, sans lui nous serions tous morts. Mais maintenant, il ne faut plus mourir. » Le grand prêtre a tenu parole. Marie-Thérèse a voulu revoir son bureau avant de mourir, le bureau où Raymond venait la chercher. Maintenant Raymond est revenu, maintenant elle ne mourra plus. Mais comment Oscar avait-il pu sauver Marie-Thérèse ? Raymond était sûr qu'avant qu'il ne s'évanouît dans le temple de la mort, après ses tentatives désespérées, Marie-Thérèse avait eu le temps de mourir étouffée au moins 10 fois, certes. « Marie-Thérèse, lui dit-il, je t'ai vue quand ils t'ont mise dans la tombe. »« Tu étais là ? » s'écria-t-elle avec une énergie soudaine et revivant l'affreux drame en dépit du marquis et des tantes qui faisaient signe à Raymond et qui voulaient l'empêcher, elle, de reparler de ces choses. « Oui, tu étais là ? Pour me sauver, n'est-ce pas, mon bien-aimé ? Mes yeux se sont ouverts tout à coup, parce que je savais que tu étais là. Je sentais tes yeux sur mes yeux, et je les ai ouverts. Et les méchants ont fermé la tombe. « Tais-toi, tais-toi, Marie-Thérèse, je t'en supplie, dit le marquis. Il faut oublier tout cela, il ne faut plus parler de tout cela. » Mais si, si, maintenant Raymond est là, il n'y a plus de danger. Il faut que Raymond sache. Ça a été la nuit dans la tombe. Ah, tu as dû voir que j'étais comme morte, depuis qu'on m'avait pris mon petit Cristobal, qui avait poussé ce cri déchirant au moment où Oscar l'arrachait de mes bras. J'étais déjà morte. J'avais cru qu'on allait le tuer. C'est en vain que Oscar m'avait dit qu'on respecterait sa vie. Oh, je ne pouvais pas croire, Oscar. Et je fermais les yeux pour mourir, dès mon entrée dans l'abominable temple. Et je les ai rouverts quand je t'ai senti là. Et qu'allais-tu faire pour me sauver? Car je savais que tu tenterais tout, tout. Ah, mon amour, même dans la nuit de la tombe, j'espérais en toi. Au fond des minutes atroces que j'ai passées là, dans le domaine des morts, la pensée que tu me sauverais ne me quittait pas. Tu ne me laisserais pas mourir ainsi entre ces pierres. Et je t'attendais. Je t'attendais, moi, que la mort avait lié déjà. Puis j'ai commencé à étouffer. Et alors, je me suis dit, il viendra trop tard, trop tard. Je serai morte quand il arrivera. Et sous mes bandelettes, ma poitrine se soulevait, ma bouche cherchait l'air qui commençait à me manquer. Oh, papa, mon bon papa, laissez-moi dire à Raymond, puisque c'est fini, puisque je suis vivante et que nous vivrons et que nous nous aimerons. Alors, j'ai tout fait. Et mes oreilles commençaient à me faire entendre d'étranges musiques. quand tout à coup la muraille fut secouée, ébranlée autour de moi. Des coups sourds faisaient trembler la montagne qui était mon tombeau. « C'est lui, me disais-je, c'est lui, vite, vite, qu'il se dépêche !» Mes yeux étaient grands ouverts dans les ténèbres et j'attendais la lumière. Et après un dernier coup terrible contre la muraille, la lumière vint. Je fermais les yeux en criant « Raymond !» Je me suis senti tiré par derrière. Je rouvris les yeux. J'étais dans les bras de Huascar. De Huascar qui me tenait étroitement serré contre sa poitrine. De Huascar dont le visage passionné se penchait sur le mien, dont le regard de flamme me brûlait. Je demandais à Dieu pourquoi il ne m'avait pas laissé mourir. L'Indien me déposa dans un couloir obscur qu'éclairait un feu de résine. Et là, il commença de délier mes bandelettes. Et quand j'eus les bras et les mains libres, il me recouvrit de la robe de chauve-souris que l'on m'avait ôtée avant de me faire entrer dans le temple. Je le regardais agir avec épouvante, comme une esclave que rien ne peut sauver de son maître. Mais il m'annonça d'une voix rauque que je n'avais rien à craindre de lui et qu'il m'avait sauvé. Bon, je ne pouvais pas le croire, je ne pouvais pas croire Huascar. Je le regardais maintenant, replacé dans la tombe d'où il m'avait tiré, une momie pareille à celle dont nos panthéons sont pleins, et refermer le trou qu'il avait creusé et préparé à l'avance, autant qu'il lui avait été possible sans éveiller les soupçons autour de lui. « Il n'y a pas de sacrilège, fit-il, puisque le dieu a le nombre d'épouses qu'il lui faut. » Il se tourna vers moi et instinctivement je reculais. « Je te fais encore peur, me dit-il. Sache donc que sans moi tu serais déjà morte et que j'avais tout disposé pour ton salut. » Et ne me remercie pas, puisque j'ai fait cela parce que je t'aime. Je reculais encore, ou plutôt, je me traînais misérable et sans force, hors de ses bras qui se tendaient vers moi. Il y en a d'autres qui t'aiment, dit-il encore, et qui auraient voulu te sauver, et qui ont tout fait pour que tu meures. J'ai dû faire échouer moi-même leur tentative dangereuse, car les Quichois t'auraient offerte aux dieux quand même morte s'ils ne pouvaient te garder vivante. Je ne croyais pas, Huascar, alors je lui dis, « Tu ne m'as sauvé que pour mieux me perdre. Qu'as-tu fait de mon frère ?»« Tu veux le voir, m'a-t-il dit, viens. » Et comme j'étais incapable de faire un pas, il me prit dans ses bras et nous enfonçâmes dans les couloirs de la nuit qui ne doivent avoir aucun secret pour lui. J'entendais contre moi le battement de son cœur et j'avais plus peur que lorsque j'étouffais dans la muraille du temple. Un serment qui ne compte plus. Enfin, il poussa une porte et deux cris joyeux retentirent. J'étais en face de papa et de Cristobal, qui me prirent des bras de Huascar et me couvrirent de baisers. L'Indien dit, « Je vous avais promis de vous rendre votre fille et votre fils, seigneur, les voici. Vous ne courez plus maintenant aucun danger. Un Inca ne manque jamais à sa parole. » Sur quoi il salua, et nous ne l'avons plus revu. J'ai voulu te dire tout cela, Raymond, pour que si par hasard tu rencontrais jamais cet homme, tu saches ce que nous lui devons. À ces derniers mots, le jeune homme tressaillit et serra nerveusement la main de Marie-Thérèse. « Oh, Marie-Thérèse, fit-il, la voix tremblante, je sais ce que je lui dois. Il t'a sauvé, il m'a sauvé. Et moi, je lui ai juré que s'il te sauvait, tu ne serais jamais ma femme. Mon Raymond, je sais cela. Il a dit cela à papa. N'est-ce pas papa qui t'a dit cela? Oh, papa te le dirait, mais pourquoi trembles-tu? C'est un enfantillage. Mais tu n'as peut-être été sauvé qu'à cause de ce serment-là, fit Raymond lugubre. Malgré ce serment-là, vous voulez dire, interrompit le marquis. Huascar l'a considéré comme une insulte. Lorsque dans l'île où j'avais été amené prisonnier à la suite du cortège qui emportait Marie-Thérèse, je me trouvais seul un soir face à face avec l'homme que j'accusais de nous avoir trahis et d'être la cause de tous nos malheurs, je voulus lui cracher toute ma haine et mon mépris, mais il ne m'en laissa pas le temps. Il arrêta mes premières invectives pour me faire conduire et garder dans une grotte près du rivage, où il me rejoignit bientôt et où je m'attendais à être sa victime. Et là, il m'apprit froidement qu'il n'avait jamais cessé de travailler à nous sauver de nous-mêmes et de nos imprudences, et que tout était préparé pour notre fuite, que bientôt il m'amènerait mes enfants et que je n'aurais la nuit suivante qu'à me jeter avec eux dans sa pirogue et qu'à m'en remettre de notre salut aux deux Indiens qu'il m'avait donnés pour garde et qui lui étaient dévoués jusqu'à la mort. Son tour était si solennel que je ne mis point sa parole en doute. Rien ne le forçait plus à me mentir puisque nous étions ses prisonniers. Je lui tendis la main, mais il ne la prit pas. C'est alors qu'il me parla du singulier serment que vous lui aviez fait un soir à Arequipa. Je ne connais point ce jeune homme, me dit-il. J'ignore pourquoi il m'a proposé un pareil marché. La señorita sera libre comme son cœur, et je ne suis point le marchand de son cœur. Il ne m'appartient ni de le prendre, ni de le donner, ni de le retenir. Il faut que ce jeune homme sache cela, à qui je n'ai jamais fait de mal, et qui m'a insulté. Ouf, je lui pardonne. Il s'apprêtait à partir, je voulus encore le remercier, dans la certitude où sa parole m'avait mise qu'il tenterait tout pour notre salut. Remerciez celle qui est au ciel et qui fut la señora de la Torre, señor, et ne remerciez point Huascar, qui ne vous demande qu'une chose. En échange du service qu'il a pu vous rendre, c'est de n'en parler jamais. Il ne faut point que la mémoire du grand prêtre de l'Inca soit déshonorée. Ainsi a parlé Huascar. Alors, vous pourrez épouser Marie-Thérèse, Raymond. Sur ces entrefaites survinrent l'oncle Ozou et Natividad. Ils avaient appris en route que le marquis était de retour à Lima, qu'on l'avait vu ce jour-là à Callao, et qu'il y avait ramené, il ne savait par quel miracle, Marie-Thérèse et le petit Cristobal, et ils accouraient comme des fous. Imaginons que nous avons rêvé. Et maintenant, ils riaient, ils pleuraient de surprise et de bonheur, et tout ce monde s'embrassait. En vain, les deux vénérables dames voulurent-elles entraîner Marie-Thérèse et la soustraire à toutes ces démonstrations, Marie-Thérèse leur fit comprendre que la joie générale était encore le meilleur médicament contre de si affreux souvenirs. « C'est un mauvais rêve, » fit-elle. « Imaginons-nous que nous avons fait un mauvais rêve. »« Oui, il nous faut imaginer cela, » puis le marquis. « J'ai vu Ventimiglia et je lui ai tout raconté. » Il nous prie de nous imaginer que nous avons fait un mauvais rêve. Il nous le demande patriotiquement. En revanche, il a promis de nous aider dans la liquidation de notre entreprise de guano et dans la vente de nos concessions. Le mariage de Marie-Thérèse et de Raymond aura lieu en France, si personne n'y voit d'inconvénient. Nous ne reviendrons que plus tard essayer le siphon de l'ingénieur Ozou dans les mines antiques du Cusco, quand nous serons à peu près sûrs que ceux qui tenteront de les fréquenter ne risqueront plus de faire d'aussi mauvais rêves. Ah, si on m'écoutait, je vous prie de croire que l'on verrait bientôt clair dans les couloirs de la nuit, s'exclama la Natividad. Mais non, c'est toujours le même système. On ne veut rien voir, on se boucle les yeux. Même après une aventure aussi incroyable où nous avons failli tous laisser notre peau, Ventimiglia, qui devait mater une bonne fois les Indiens, Ventimiglia nous demande de croire que vous avez fait un mauvais rêve. Et le pauvre Natividad leva vers le plafond des bras désespérés. Monsieur Natividad, vous êtes un mauvais esprit, déclara le marquis. J'ai du reste une triste nouvelle à vous annoncer. Vous n'êtes plus inspecteur supérieur de Callao. Vous êtes dégommé, mon cher monsieur Natividad. Natividad se laissa tomber sur une chaise, la bouche ouverte, ne trouvant pas un mot pour qualifier la joie avec laquelle un homme pour lequel il avait tout risqué lui annonçait son malheur. Il était si comique ainsi que tout le monde éclata de rire. Il se leva alors furieux et se dirigea vers la porte à grands pas. Il suffoquait d'indignation. Ça lui apprendrait à quitter pendant des semaines Jenny l'ouvrière. « Pas si vite !» lui cria le marquis. « Pas si vite, mon cher monsieur Natividad. Si j'ai une triste nouvelle à vous annoncer, j'en ai également une excellente. Vous êtes nommé inspecteur supérieur de Lima. » Natividad retomba sur une chaise, mais cette fois éperdu de joie. « C'est un rêve !» gémit le brave homme. Et cette fois, il ne savait comment remercier le marquis, grâce auquel se trouvait réalisé le plus beau rêve de sa vie. « Mais enfin, finit-il par s'écrier, j'aurais pu être mort. »« Oh !» répliqua en souriant le marquis. « La nomination que m'a remise le président de la République n'est valable, évidemment, que dans le cas où vous seriez vivant. Allons !» Puisqu'ils ne vous ont pas mangé, vous allez pouvoir les surveiller, vos Indiens. Chut, dit Natividad, en qui renaissaient les qualités prudentes du magistrat, qu'on n'en sache rien. La voix de François Gaspard se fit entendre. Nous allons rentrer en France, mon cher marquis. Est-ce que je pourrais parler dans mes conférences ? Vous raconterez que vous avez fait un rêve, mon cher académicien, pendant lequel vous sont apparues toutes les splendeurs et toutes les horreurs des cérémonies du vieux Pérou. Et nous, croirons-nous jamais que nous avons fait un rêve ? Demanda tout bas Raymond à Marie-Thérèse, en fixant tristement ce pauvre visage qui attestait, lui, que la réalité était encore bien proche. Ah, quand les couleurs nous seront revenues, lui répondit Marie-Thérèse, qui contemplait le cœur serré la pâle figure de son fiancé. Tout de même, continua-t-elle, quand je me retrouve ici dans ces bureaux, en train de prendre le thé, à côté de ma bonne tante et de la vieille Irène, de me faire gâter par vous tous, quand je revois ces bons registres verts sur lesquels je me suis tant plié pour aligner des chiffres, et ce copie de lettres qui attend encore la réponse au correspondant d'Anvers. Tu sais, mon Raymond, pour ce prix-là, vous n'aurez que du guano phosphaté à 4% d'azote et encore. Ou quand je vois ce cadre domestique où joue mon petit Cristobal, quand je vous revois tous vivants après le temple de la mort, je ne puis m'empêcher par moments de me dire, n'ai-je pas rêvé ? Tragique réalité. À ce moment, Natividad prenait congé du marquis et ouvrait la porte du bureau. Il recula soudain avec une exclamation étouffée. Un corps, soutenu par la porte, venait de s'allonger sur le carreau du magasin. Et ce corps était le cadavre d'un Indien. Marie-Thérèse, qui le reconnut la première, tomba à genoux. « Non, non, Raymond, s'écria-t-elle, nous n'avons pas fait un rêve. » Et elle pleura sur Oscar, qui s'était traîné jusqu'à ce seuil d'où elle l'avait chassé et qui mourait un couteau dans le cœur. Épilogue. Il faut à cette histoire un épilogue à cause que nous n'avons pas eu l'occasion de reparler dans le dernier chapitre d'Oviedo a une Caruntu, ex-commis à la banque franco-belge de Lima, dernier roi des Incas. Après 1000 aventures mystérieuses dans les Andes que nous raconterons peut-être un jour et où la police du Bonatividad le traqua, lui et tous les Indiens qui avaient soutenu la révolte de Garcia, Oviedo Untu demanda à traiter. Il eut la vie sauve à condition qu'il incita les derniers rebelles à faire leur soumission. Condamné par un tribunal militaire à l'exil perpétuel, l'astuce de Natividad lui valut la grâce, et ce fut encore l'ancien commissaire de Callao qui lui procura une place à Puno dans une succursale de la banque franco-belge. Là, Natividad put surveiller tous ses gestes à loisir et constater qu'il ne faisait plus rien pour ressusciter le merveilleux Raimi. Oviedo Runtu mourut fort bourgeoisement après avoir épousé une dame de Lima qui avait fait le voyage du lac Titicaca pour voir le dernier roi des Incas. Ils se marièrent et les voyageurs qui passaient par Puno et auxquels on montrait le couple royal souriaient quand on leur disait que le roi gagnait, derrière le grillage de son administration, 150 soles par mois. Un jour, que l'on s'amusait du petit train de maison de la veuve du roi, que l'on nommait par dérision la Coya, celle-ci raconta que, s'ils avaient voulu, ils auraient été les époux les plus riches de la terre, mais les trésors des Incas, disait-elle, appartiennent aux morts et aux dieux, et il est défendu d'y toucher. Alors on lui demanda si elle les avait vus, ces trésors. Elle répondit que son mari les lui avait montrés, et elle raconta des histoires fabuleuses sur les richesses du temple de la mort, que personne naturellement ne crut. Ainsi, personne ne croyait les soldats de Pizarre quand ils racontaient qu'au Pérou, ils ferraient leur cavalerie avec des fers d'argent. Fin.